Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, le grand écart. Le grand écart ludique, le grand écart du monde du jeu vidéo. On va parler de Sekiro et Yoshi's Crafted World. Un grand écart absolu et c'est presque deux jeux qui ont énormément en commun finalement parce que mine de rien, c'est un rapport à la difficulté, un rapport peut-être presque à la mort, un rapport métaphysique au jeu vidéo qui va se jouer dans ce Silence on joue, qui va donc parler de la dernière production From Software et du retour de Yoshi après Woolly World. Voilà. Et pour en parler, eh ben, on est deux et c'est déjà pas mal. Parce que Camille Suard, qui était prévue pour l'émission, s'est fait excuser, elle est malade. Donc on va faire ça en duo avec Franz Durupt de Libération. Bonjour Franz.
Bonjour Erwan. Oh,
ça fait plaisir, ça fait longtemps. Hein.
Ça fait très longtemps.
Ouais. Ah mais ouais. Enfin, t'as déjà vu cette saison, je crois. Une fois, je crois. Une fois, ouais. C'est ça. C'est pas assez, c'est pas assez. Non, il faut que tu sois plus.
Je suis d'accord.
Et puis j'ai oublié de dire que le reste du programme est évidemment là. On aura la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. On commence avec toi, avec une histoire d'Anthem dont on n'a pas parlé ici d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé? Peut-être qu'avec cet article de Kotaku...
Oui, alors donc c'est à propos du développement d'Anthem, donc la dernière production BioWare, qui est sortie donc il y a quelques semaines dans des conditions un petit peu... catastrophique, on peut dire. En tout cas, il y a un certain nombre de joueurs qui sont très très déçus du résultat final. Et donc, Kotaku a publié cette semaine un très long article de Jason Schreier, donc qui est connu pour son travail sur les conditions de travail.
Le Fabrice Arfi du jeu
voilà,
vidéo.
C'est exactement ça. Donc, il travaille beaucoup sur les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc là, il a rencontré une vingtaine de salariés et d'ex-salariés de BioWare pour essayer de comprendre le scénario, enfin le développement catastrophique d'Anthem. Et donc, on découvre dans cette enquête que le jeu, en fait, quand il y a eu la démo très impressionnante du jeu qui a été présentée à l'E3 2017, on voyait les personnages qui volaient, etc., qu'en fait, à cette époque, le jeu était à peine entré en production. C'est-à-dire que, en fait, ça faisait 5 ans que BioWare s'embourbait dans des discussions sur le concept même du jeu.
Ouais.
Et ils ont par exemple décidé à plusieurs reprises de permettre de voler, puis ils se sont dit c'est trop compliqué au niveau du game design donc on va le retirer. Ils ont changé d'avis plein de fois, donc l'article décrit de manière assez accablante comment aucune décision n'était jamais prise, aucune décision définitive n'était jamais prise. Et donc en fait cette démo de l'E3 2017 a été conçue essentiellement pour satisfaire Electronic Arts qui commençait à s'inquiéter.
À juste titre, pour le coup.
Oui. Et donc, du coup, Electronic Arts était très satisfait. Et donc, ensuite, le défi pour les équipes de BioWare a été de terminer le jeu entre l'E3 2017, enfin, même de faire le jeu, on peut le dire, entre l'E3 2017 et sa sortie, donc en 1 an et demi. Et voilà, l'article décrit comment le développement s'est embourbé aussi en raison du fait que c'était deux studios, un au Texas, un au Canada, qui devaient travailler ensemble, qui n'arrivaient pas à s'entendre sur le développement du jeu. Et aussi, un aspect très important qui est évoqué dans cet article, c'est cette idée chez BioWare qu'il existe une magie BioWare qui fait que même dans les cas les plus catastrophiques, en dernière ligne droite, on arrive toujours à sortir un bon jeu et un jeu qui finalement marche. Et donc notamment, des gens parlent de l'expérience de Dragon Age Inquisition qui avait été terminée aussi dans des conditions de crunch intolérables. Sauf que le jeu a très bien marché, a été très bien reçu, ce qui est devenu en fait une malédiction un peu pour les équipes de BioWare puisque ça a renforcé l'entreprise, la direction de l'entreprise dans cette idée que à la fin on y arrive toujours.
Ouais. Ce qui est toujours, ce qui est un des gros soucis du jeu vidéo aujourd'hui. Hein.
Exactement.
On sait que même, on l'a appris, hein, même sur un budget totalement délirant comme celui de Red Dead Redemption 2, il y a eu des systèmes de crunch comme voilà. Ça. Donc c'est
tout à fait.
Et BioWare, ouais, ça a été.
Voilà. Et donc là, les gens de BioWare racontent, les difficultés physiques et mentales qui ont été celles des équipes sur la fin du développement du jeu. Et voilà, donc ça remet toujours, enfin ça repose à nouveau la question évidemment du fonctionnement de certains grands studios ou même
oui,
petits studios.
Voilà, et il y a eu ce truc. Alors après, c'est deux jeux totalement différents, mais pas tant. Mais c'est cette sortie concomitante de Apex Legends et de Anthem pour le même éditeur. Ça a été face. Je sais pas, c'était très très étrange cette séquence-là.
Ouais.
Anthem, qui était, c'est vrai, dans les différents E3, présenté comme un gros blockbuster, une sorte de concurrent de Destiny et tout ça. Enfin, il est passé complètement à l'as. Enfin, pour le coup, nous, quand je disais que ça pouvait expliquer quelque chose, c'est on n'en a pas parlé. Parce que on n'a pas, à aucun moment, on a senti la nécessité d'en parler. C'était quasiment un jeu mort-né. Il a été décrit comme étant la meilleure simulation d'Iron Man sortie à ce jour. C'est-à-dire que, au-delà du fait de voler, qui est très bien fait et qui est techniquement et ça tient la route et tout ça, le reste du jeu est à tomber par terre. Enfin, a lâché sa manette de découragement très très vite. Donc voilà, on n'a pas vu l'utilité de perdre du temps à en causer. Voilà,
donc je vous invite à lire. Bon, c'est en anglais, c'est très long, c'est sur Kotaku, voilà, un article sur le développement catastrophique dans le thème.
Ouais. Il est fort.
Ouais.
Quelques news à part ça, on a appris la date définitive de sortie de Borderlands 3 après des teasers, de trailers, de tout ça, pas mal de montées comme ça, essayer de me faire monter la sauce comme sur le troisième épisode de cette licence qui est devenue un peu. D'une manière assez inattendue, une licence très forte en fait. Borderlands 3 donc, va sortir le 13 septembre 2019 sur PS4, sur Xbox One et sur PC, mais sur PC Epic Game Store, donc nouvelle offensive hein, de la part d'Epic vis-à-vis de Steam. Ça sortira sur Steam 6 mois plus tard, donc 13 septembre plus 6 mois, on est sur aux alentours de mi-mars 2020. Ouais. Voilà, et je pense que ça va être encore une bonne occasion d'essayer l'Epic Store. Et dernière petite news qui est un peu, enfin. On va pas tomber dans l'ironie facile, mais Ubisoft arrête la production des jouets Starlink. La grande question est évidemment de savoir pourquoi ils ont commencé. Je pense qu'il y a un truc de contre-temps, allez, vu que tout le monde arrête, on va commencer. Les seuls qui continuent, c'est les Amiibo. Mais les Amiibo, on sait très bien que Nintendo se base sur un truc de collectionnite un peu permanent et puis de ces petits objets qui finalement ne servent pas dans le jeu. Enfin, les gens achètent des Amiibo et puis les mettent sur les étagères ou les collectionnent ou même les sortent pas de la boîte pour garder le truc intact et s'en servent pas, ne se servent que très peu de l'aspect compatible avec les jeux. Donc, on sait que du côté d'Activision, Skylanders, voilà, c'est un truc qui...
Ça a l'air d'appartenir au passé, maintenant.
Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils vont ressortir des choses. Mais Lego, Lego Dimension s'est arrêté. Enfin, on sait très bien que ces aspects-là, je crois que c'était les jeux Marvel aussi qui avaient sorti. Disney Infinity,
oui,
voilà, Disney Infinity
ouais.
Qui s'est aussi arrêté. Et au moment où on constate que ce fut une belle période financière pour les gens qui s'étaient lancés là-dedans, mais que c'est fini. C'est un peu comme s'ils avaient sorti un jeu d'instruments de musique. Ah, mais ils l'ont fait aussi, je crois, un jeu d'instruments de musique. Ils n'avaient pas fait leur guitare.
Je sais
leur
ça.
Un truc de guitare qui se pluguait sur des vraies guitares. Je crois qu'ils avaient fait ça, Ubisoft aussi.
Ah, ils avaient... oui, ouais. C'est possible. Ouais.
Bref, voilà, bon, Starlink s'arrête. Le jeu en lui-même était assez inintéressant, d'après notre ami Marius hein, de Libération. Ça ressemblait à une sorte de version alpha des combats qui auront peut-être lieu dans Beyond Good and Evil 2 pour les questions d'échelle. Enfin voilà, ça rappelait un peu les, les images qu'on voit côté BGE 2. Voilà, bon, donc personne ne va pleurer, je pense, sur Starlink, vu que personne ne les a achetés, hein, ou très peu. Donc voilà, ça s'arrête. Le com des com de la semaine dernière, on parlait de The Division. Alors, je vous conseille un long post d'Alan San que je ne vais pas redire là parce que c'est très long. Et il parle de son expérience avec The Division et c'est le comparatif avec la fin de The Division. Parce que voilà, il y a eu deux époques dans le premier The Division. Il y a eu The Division à la sortie et The Division à la fin de sa carrière, hein, avec le patch 1.9, je crois, où ils avaient amené énormément de nouveaux contenus. Ils avaient revu un peu énormément de choses, mais The Division 2 a réussi la performance de sortir à un niveau plus avancé que la meilleure mouture de The Division. Alors Force Tranquille, lui, nous dit « Je découvre la licence The Division avec ce deuxième épisode qui se passe à Washington. J'avoue que c'est une très bonne surprise. C'est typiquement le genre de jeu auquel on ne voit pas dans lequel on ne voit pas le temps passer. Je trouve le cycle jour-nuit et les variations climatiques très réussies. Même si on passe régulièrement dans les mêmes zones, on ne s'ennuie pas. Un autre aspect très sympa aussi, c'est la difficulté du jeu qui est assez bien dosée. On peut s'amuser seul avec les petites missions et en coopération pour les grosses missions. Même si le jeu est conçu pour être joué en coop, on peut aussi s'amuser tout seul parce qu'on peut, toujours... Ouais, on ne peut pas toujours se retrouver avec nos partenaires habituels et ça c'est un gros plus. En termes de gameplay pur, oui c'est répétitif mais étrangement, après une vingtaine d'heures de jeu, je m'amuse toujours autant. Ce côté sac à PV avec des milliers d'armes différentes et des compétences me rappelle beaucoup Borderlands, du coup hein, dont on a parlé, et comme j'adore Borderlands, ceci explique peut-être un peu cela. Voilà, très très bonne alors je crois qu'au niveau des ventes c'est pas top The Division 2, enfin j'en sais rien, j'avais cru lire ça, mais en tout cas, c'est une vraie réussite ludique. Je retarde un peu. Hein, je retarde un peu ce moment où il va falloir parler de mes légers soucis de gameplay. Mais heureusement que toi, tu en as eu moins. Enfin non, t'es passé au-delà, en fait. C'est pas ça le truc, t'es passé au-delà. Mais il faut parler de Sekiro. Listen, Wolf, you must never forget the Iron Code. I see defend your master. With your life, if he is taken, bring him back at any cost. XVIe siècle, période Sengoku. Je ne vais pas faire semblant, je ne sais pas de quoi je parle, hein, je lis des notes, donc je ne connais absolument rien à l'histoire du Japon, sauf que c'était une période où, a priori, il y avait des katanas. Voilà, et il y a un truc de shinobi, hein, parce que tu vois, tout le monde dit, Sekiro, c'est un jeu de ninja. Moi, je trouve que c'est un jeu, enfin, je savais pas que les ninjas, moi, les ninjas, pour moi, ils étaient tout en noir avec des masques, mais je parle hyper loin, hein, tu vois, je parle d'hyper loin. Sekiro, nouveau jeu From Software, après la période Dark Souls, Bloodborne, et donc là, voilà, Sekiro, on en a entendu parler depuis très longtemps. On sait que c'est le premier de cette alliance entre Activision d'un côté et From Software de l'autre, avec le grand flip. From Software va-t-il perdre son âme aux côtés de l'ogre Activision ? A priori, non. Tu vas nous en dire plus, Franz.
Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas tout à fait la première fois qu'Activision et From Software se retrouvent côte à côte, puisqu'en fait, Sekiro est l'héritier assez direct de la saga Tenchu, qui avait été d'abord édité par Activision, puis par From Software. Et From Software en avait développé quelques épisodes. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Sekiro, à la base, devait être un revival de Tenchu.
D'accord.
Et qu'en définitive, ils ont décidé d'en faire quelque chose de complètement nouveau, de ne pas reprendre ce nom. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve l'idée d'incarner un shinobi dans un Japon médiéval. Et donc, effectivement, donc c'est la... je n'y connais pas grand-chose non plus en histoire du Japon, mais puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Hidetaka Miyazaki à Londres en novembre pour parler un petit peu du jeu, voilà, il a expliqué qu'effectivement, il avait décidé de placer le jeu à la fin de l'ère Sengoku, qui est donc une ère de guerre civile très très forte au Japon, et notamment parce que, pour donner la sensation... voilà, de quelque chose de grand, un empire un peu en gros qui est sur le point de s'effondrer. Il dit que c'est très important pour lui effectivement d'avoir ce genre de situation où on sent qu'on a affaire à quelque chose de gigantesque qui est entré en déliquescence, quoi.
Ouais, qui s'effrite petit à petit.
Qui s'effrite physiquement. Ben, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi évidemment dans les Dark Souls et le Bloodborne, hein, avec ces grandes cités qui sont, ces grands châteaux aussi qui ont l'air d'être sur le point de s'effondrer. Et voilà, donc on retrouve un peu cet aspect-là dans Sekiro, dans une époque particulière du Japon, qui est aussi choisi pour des raisons de gameplay, puisqu'effectivement, le point de départ de From Software pour ce jeu, c'est effectivement la possibilité d'incarner un shinobi, ce qui a des conséquences très directes sur le gameplay du jeu. Enfin voilà, on va pouvoir y revenir.
Ce qui est marrant dans ce que tu racontais sur cette paternité, enfin ce lien de filiation avec Tenchu, mais ils n'ont pas repris la licence, c'est que finalement aujourd'hui, la licence, c'est From Software.
Oui.
C'est la vraie licence, c'est le studio lui-même, oui. C'est-à-dire que Sekiro ne peut pas être un successeur de Tenchu parce que c'est un successeur avant tout des Souls et de Bloodborne.
Oui, tout à fait, puisque effectivement, l'histoire de From Software, elle peut vraiment la diviser en deux époques. Hein. Il y a avant et après l'arrivée de Miyazaki, en gros. Hein. Et donc Miyazaki qui est arrivé vers 2008 et donc là qui a pris en main le développement de Demon's Souls. Ce qui a ensuite fait entrer le studio dans une ère où il est devenu un peu le parangon de la difficulté sur le marché du jeu vidéo. Et donc avec effectivement les trois Dark Souls, même les quatre Souls, puisque donc il y a aussi Demon's Souls et Bloodborne. Et donc effectivement maintenant l'argument de vente du jeu, c'est pas de dire c'est un nouveau Tenchu, c'est de dire c'est le nouveau From Software. Voilà, c'est l'argument.
Vous allez un peu en chier, ouais. Mais on vous promet, c'est hyper bien, il y a la même ambition. Finalement, c'est ça la promesse de Sekiro, c'est ils ont juste eu à dire on arrête en tout cas la dark fantasy visible, qui était un peu le point commun entre les univers, les différents univers des Souls et de Bloodborne. On arrête la dark fantasy, on arrive sur du médiéval, du Japon médiéval. On inclut les faits de la verticalité avec le fait de faire des sauts.
Ouais.
Et en fait, c'était ça. La promesse de Sekiro, c'était ça. C'est un jeu From Software où on va pouvoir sauter.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est effectivement ce que Miyazaki m'a dit, qui est assez rigolo. Il a dit que ce serait étrange de faire sauter un chevalier en armure. C'est vrai qu'on ne pouvait pas sauter dans les Dark Souls, effectivement, parce que c'est très étrange l'idée. Et donc effectivement, les Dark Souls étaient des jeux qui avaient une verticalité, mais une verticalité qui se développait autour des échelles et autour des tours avec leurs escaliers en colimaçon, etc. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans le même rapport à l'espace, puisque on peut sauter, on a un grimpin, ce qui donne un côté très platformer au jeu. Finalement, il y a des séquences vraiment qui sont quasiment de la plateforme pure.
Et sur la phase qui est importante dans les Souls, enfin dans les jeux From Software, qui est l'exploration, ça change aussi totalement,
puisque effectivement, maintenant on peut voir des endroits qui peuvent apparaître très loin, qui sont en fait accessibles. On franchit des précipices, voilà. Donc effectivement, les niveaux se développent d'une manière très très différente. Il n'y a plus cet effet d'enfermement qu'on pouvait avoir dans les Souls et dans Bloodborne, avec une densité très très forte des niveaux.
Un côté limite claustro en fait.
Ouais, limite claustro. Ouais. Alors que là, effectivement, on prend l'air là pour le coup. Voilà, on est, c'est très aéré. Et c'est très aérien aussi.
Alors les premières, on va essayer de remonter un peu dans le temps sur ton expérience, sur ton expérience du jeu. Alors tu y as joué lorsque tu as rencontré Miyazaki, en novembre. La première fois où tu as mis les mains, la main dessus. Mais on va passer sur ce passage parce que finalement prendre en main un jeu From Software pendant une heure, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens effectivement. Ouais. Je me suis retrouvé dans une démo où on enchaînait deux mini boss avant d'avoir un gigantesque boss dont je pensais qu'il serait au tout début du jeu, mais en fait ça a l'air d'être plutôt un boss de fin de jeu puisque je ne l'ai pas encore croisé, et donc j'en suis content puisque j'ai cru pendant 4 mois que je n'allais pas pouvoir passer la première heure du jeu. Effectivement, une heure de jeu sur Sekiro avant de rencontrer Miyazaki, ça n'a pas trop de sens en soi, puisque j'ai dû mourir, je pense, une bonne cinquantaine de fois en une heure. Et donc, effectivement, je me suis ensuite retrouvé devant Miyazaki, qui m'a demandé ce que j'avais pensé du jeu.
Il est dur, votre jeu.
C'est très difficile, je suis mort plein de fois, c'est tout ce que j'ai trouvé
donc,
à lui
dire. Donc, tu rencontres le mec de From Software, et la première question, c'est ta première phrase, finalement, c'est de dire « c'est dur ».
Ouais, c'est dur. Donc effectivement, alors que je m'étais dit, je ne vais pas lui parler de ça tout de suite, puisque effectivement, il s'attend sans doute à ce qu'on lui dise ça.
Ouais.
Bon voilà, sans alors blague. Après... Effectivement, ça a permis de rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, la philosophie des jeux From Software, et donc on retrouve sur Sekiro, c'est effectivement que c'est des jeux très brutaux. Au premier abord, on arrive devant un ennemi et tout d'un coup, on se prend un coup qu'on n'a pas vu venir et on meurt. C'est très, très brutal, très, très violent.
Avec cette particularité que cette séquence-là n'est pas forcément une séquence de boss.
Oui.
Ça peut être une séquence d'un mec que tu as déjà buté 800 fois parce que tu es obligé de les rebuter à chaque fois quand tu es machin. Mais parce que la 801e fois, tu fais pas attention, tu es moins concentré et tout ça, tu te fais abattre par un péon de base.
C'est ça.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça nous met face à un grand vide existentiel parfois. Mais après, effectivement, l'argument qui, à mon avis, est vrai de ces jeux, c'est le sentiment d'accomplissement qu'on a ensuite. Et là, pour le coup, je trouve que c'est absolument vérifié dans le cas de Sekiro. C'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à passer un boss, quand ça fait 30 fois qu'on essaye, et qu'on y va presque de manière automatique à la fin, on meurt et on ne sait même plus pourquoi on y retourne.
Ouais.
Mais on y retourne quand même, en se disant, bon, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais.
Ouais.
Et tout d'un coup, ça passe.
Il y a un moment, entre le cerveau et les mains et les yeux, il y a un truc.
Il y a quelque chose qui se passe.
Il y a des neurones, des synapses qui vont se raccorder et qui vont faire que je vais passer. Je ne sais pas pourquoi, en fait.
Il va y avoir un déclic. Alors après, je dis, on ne sait pas pourquoi. En fait, si, on sait pourquoi, parce qu'on apprend. Et bon, par exemple, le grand apprentissage qu'il faut faire dans Sekiro, ce qui peut être compliqué, je pense, pour les joueurs qui ont fait beaucoup de Souls et de Bloodborne. Moi, ce qui est marrant, c'est que mon cas, c'est que j'avais joué aux Souls et aux Bloodborne, mais j'étais assez mauvais dedans, donc j'avais lâché l'affaire au bout d'une dizaine d'heures en me disant « je n'y arriverai jamais ». Donc je n'ai pas acquis trop de réflexes sur ces jeux. Et je pense qu'en fait, pour jouer à Sekiro, il faut se débarrasser de ces réflexes-là, notamment les roulades. En fait, Sekiro, c'est un jeu qui demande de rester face à l'adversaire d'attendre le moment de parer.
Donc si on se souvient de la trilogie Dark Souls et de Bloodborne, c'est des jeux où on avait énormément de choix dans la customisation de son personnage. Il y avait énormément de façons de jouer différentes parce qu'il y avait des armes longues, des armes à portée courte, des armes légères, des armes lourdes, même les armures. Donc, en fonction du poids, enfin de la défense, on était plus ou moins rapide, plus ou moins agile. Et c'est vrai que c'est des jeux où il fallait énormément, surtout dans les combats de boss, énormément tourner autour, esquiver, trouver les ouvertures, apprendre les patterns de loin avant d'essayer de porter deux coups et puis de s'en aller très très loin parce qu'on sait qu'il va y avoir une grosse séquence. Et voilà. Et alors que là, la spécificité de Sekiro, c'est que c'est un jeu qui amène, alors c'était déjà présent dans les jeux précédents, mais là c'est basé là-dessus, c'est là un jeu de parade.
Oui, c'est un jeu de parade total, puisqu'en fait, presque plus importante que la barre de vie, il y a maintenant une barre de posture qui se remplit au fur et à mesure qu'on donne des coups et qu'on en prend. Et donc, elle se remplit quand on reçoit le coup sans l'avoir paré, elle se remplit aussi quand on l'a juste bloqué. Mais par contre, si on le dévie, alors là, notre posture et notre vitalité ne prennent pas de dégâts. Par contre, on inflige des gros dégâts de posture à l'adversaire. Et donc, en fait, toute la technique du jeu, en fait, c'est de ne pas tellement s'éloigner de l'ennemi. Il faut rester proche de lui au corps à corps. Et il faut faire pleuvoir les coups sur lui autant que possible pour remplir cette barre de posture qui permet de lui donner le coup mortel.
C'est ça, c'est qu'en fait, il y a cette barre de vie, donc finalement, qui est pas inutile, mais il faut jeter un œil dessus.
Elle est parfois secondaire.
Mais elle est parfois secondaire. Et il y a une sorte de barre au-dessus de l'ennemi qui va se remplir et se vider. C'est-à-dire que c'est un truc très...
Oui. Parce que si on s'éloigne pour prendre son souffle, lui aussi, il reprend son souffle.
C'est ça. Donc, c'est une barre qui... C'est le fait de harceler l'ennemi, le forcer à défendre jusqu'au moment où cette défense craque. Et au moment où la défense craque, là, les points de vie prennent cher. Donc, finalement, c'est cette barre-là qu'il faut vaincre avant de vaincre l'ennemi. Sachant que ces petits... c'est méchant boss, voilà, on va les appeler comme ça. C'est ça le prix. J'ai cherché un synonyme, j'ai pas trouvé. De boss, eh bien, il faut les buter plusieurs fois pour en arriver à bout.
Oui. Souvent deux voire trois fois.
Voilà, c'est les boss intermédiaires deux fois et les autres c'est plus. Ce qui change énormément là-dedans, c'est que tu parles de ce fait de dévier. Donc voilà, on, je pense que les auditeurs qui ont déjà une petite culture du jeu vidéo, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut appuyer sur la parade au moment où le coup ennemi va t'arriver dessus. C'est-à-dire si tu gardes une posture de parade, là, tu vas empêcher que le coup atteigne ta vie, mais là, tu vas prendre cher au niveau de ta posture. Donc, en fait, il va falloir sortir sa parade au moment. Et là, ça rappelle évidemment, pour ceux qui ont cette culture-là, le versus fighting. Enfin, on est vraiment dans du versus fighting, c'est-à-dire les contres. Ça rappelle les contres des différents jeux de combat, que ce soit Street, bien sûr, ou Dead or Alive, ou ce genre de choses, où il faut jouer la parade au dernier moment, ou contrer l'ennemi, attaquer au dernier moment pour pouvoir dévier. Donc, on est vraiment sur ces trucs. Et là, on sait très bien, pour les gens qui jouent aux jeux de combat, c'est le rythme qui compte. Finalement, Sekiro est un jeu de rythme.
C'est un jeu de rythme. C'est un jeu de danse, en quelque sorte. Enfin, je pense que c'était aussi le cas des Souls et des Bloodborne avant. D'ailleurs, je l'ai dit à Miyazaki, ce qui l'a fait rire, mais il n'a pas rebondi dessus. Mais c'était un peu frustrant. Mais effectivement, c'est un jeu de danse et de rythme où il y a tout un rapport à l'espace qui se situe entre nous et l'adversaire. Une question de, il faut être en proximité, parfois le plus proche possible, parfois il faut s'éloigner. Il faut apprendre tous ses mouvements pour caler ses mouvements sur les siens. Et c'est vrai que parfois, moi je me suis rendu compte, il y a des boss, notamment un boss que j'ai fait l'autre fois, où on cale presque sa respiration sur l'ennemi.
Ah ouais.
Je me suis retrouvé face à ce boss, où je voyais à un moment, il lève son sabre très haut, et il abat pour l'abattre sur le joueur. Et c'est des moments où moi je me suis retrouvé à prendre une inspiration presque en me calant physiquement sur ce qu'il était en train de faire, pour ensuite, quand il retombait, moi aussi retomber et parer à ce moment-là.
Alors, c'est peut-être une bonne idée, parce que moi, mes combats, je les passe en apnée. Donc,
je pense qu'il faut respirer.
Mais je crois que ça a été un de mes gros problèmes, c'est que les combats dans Sekiro, tendance à se... Après, c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas cette grande expérience sur les Souls, mis à part sur le premier où je suis allé un petit peu loin quand même, sous la pression des auditeurs de Science en Joue, rappelons-le, à l'époque où on n'avait pas parlé de Dark Souls, et puis on a eu des semaines de commentaires comme ça, pourquoi vous parlez pas de Dark Souls, donc je crois qu'on en a parlé 3 ou 4 mois après tout le monde. Donc j'ai quand même joué un petit peu pour vraiment comprendre le truc. C'est vrai que les autres, je suis un peu passé, j'ai pas persévéré particulièrement. Et donc ce qui m'a amusé moi dans Sekiro, c'est de se rendre compte que tu parlais de la distance, qu'il faut pas s'éloigner. Enfin, il faut au contraire. C'est même quand dans les Souls, on avait une tendance, par exemple, à faire une roulade, une roulade qui s'éloigne de...
Oui.
C'est le réflexe normal.
Ouais.
Là, on peut faire un saut pour sauter sur son adversaire, pour se rapprocher encore, esquiver en se rapprochant. Enfin, c'est des choses qui sont totalement contre-intuitives, mais finalement, où Sekiro nous pousse à aller au contact.
C'est un vrai jeu de corps à corps. Ouais. Et c'est un vrai jeu de duel, effectivement, puisque c'est pas la peine souvent. Et c'est pour ça que l'aspect infiltration du jeu aussi et tout cet aspect du saut et du grappin est très important, puisque on peut aborder du coup les groupes d'ennemis en isolant les ennemis pour les désinguer discrètement ou voilà, pour se retrouver juste en duel face à eux, puisqu'effectivement quand on se retrouve dans un groupe de 6 personnes, pour peu qu'il y ait 2 archers qui traînent un peu en dehors du groupe, là ça devient très très compliqué. On n'est plus
question, une curiosité personnelle, c'est pour un ami. Est-ce que c'est compliqué ou c'est impossible?
C'est parfois impossible.
À 4, même à 3, je commence
à
considérer ça comme nul et non avenu.
Oui.
Enfin,
moi-même qui commence un peu à... Je vais pas dire que je roule ma bosse sur le jeu. Il y a des passages, je les ai fait 40-50 fois pour gagner de l'expérience, etc. Il y a des groupes d'ennemis. Je sais très bien que ça ne sert à rien, même à mon niveau, que j'aille dedans comme ça, comme un bourrin. Il faut que je faisais au début, c'est-à-dire j'arrive sur le toit, j'en isole un, machin. Enfin, voilà. Il faut continuer à faire ça même quand on a pris
c'est
de
ça,
l'expérience
hein,
et du niveau.
Ça, parce que c'est moi ça a été un souci à chaque fois quand ça m'est arrivé d'être 2 ennemis, ça va. Deux ennemis, c'est là où si tu gères bien, tu fais justement la déviation sur le premier ça va. Mais par exemple, un mini-boss et un ennemi,
Il faut nettoyer l'environnement
dans
le mini-boss.
Donc, sachant que, il y a cette C'est trois niveaux de difficulté. Hein, c'est je crois que dans les Souls, c'était un peu la même chose. Hein, c'est-à-dire que tu as le tout venant des ennemis, hein, qui jamais à prendre à la légère. Le mini-boss, donc avec deux vies. Et surtout qu'une fois, lui, une fois que tu l'as tué, il ne réapparaît pas. Ouais. Et le boss de niveau que tu sais. Parce que tu as été mort 10 fois, en fait. C'est là où
forcément... 20, voire 30. Ouais, voilà. Il y en a, je n'ai pas compté, mais je pense que je suis monté. Enfin, je sais, en tout cas, en heure de jeu, je sais qu'il y a des boss sur lesquels j'ai passé 2 voire 3 heures.
C'est ça, c'est ça.
D'affilée.
Alors, c'est peut-être encore plus que sur les Souls, j'ai l'impression que le combat est ultra central. C'est-à-dire qu'on est dans Sekiro, alors ça n'enlève rien... la réalisation, parce que moi cette réalisation je la trouve, alors n'étant pas un fan absolu de l'esthétique gothique, j'avoue que l'esthétique des Souls me laissait un peu indifférent. Là au niveau du design, j'ai adoré.
C'est magnifique.
Il y a cet horizon qui est explorable, où on sait qu'on va pouvoir y aller à différents endroits, on voit des habitations à tel ou tel endroit. C'est beau, quoi.
C'est très très beau, les panoramas sont magnifiques. Ce qui est drôle aussi, c'est par exemple au tout début du jeu, on arrive et on voit une forteresse qui n'est pas si loin que ça, mais en fait cette forteresse, c'est l'objectif, hein.
Ouais.
Et en fait on va y arriver par tout un tas de détours, et quand on se retrouve dans la forteresse, on se rend compte qu'en fait en vol d'oiseau on a parcouru à peine 100 mètres, mais sauf que ça a pris des heures et des heures avec des tonnes de chemins alternatifs.
C'est parce qu'on est un peu dans les montagnes japonaises,
c'est ça, voilà, dans les montagnes, mais faut le dire, c'est une forteresse un peu comme dans les Dark Souls, hein, c'est une forteresse massive posée sur une montagne. La forteresse a l'air plus grosse que la montagne sur laquelle elle se trouve. Et effectivement, il y a aussi ce jeu d'échelle. On voit la forteresse au loin. En fait, elle n'est pas si loin que ça quand on s'y retrouve. Mais il a fallu prendre tout un tas de chemins, vivre tout un tas d'aventures pour y arriver. Et là-dessus, c'est très, très réussi aussi. Ça donne des panoramas vraiment magnifiques et qui font aussi, à un moment, s'arrêter et repenser au chemin qu'on a parcouru en se disant que ce n'était pas grand-chose, mais c'était quand même beaucoup, en fait.
Voilà. Ouais.
Ce que j'ai fait, ce n'est pas rien. Et en fait... si j'avais eu des ailes ou une paraglide comme, comme dans Zelda, j'aurais été en 10 secondes.
Voilà. Bon. Ça aurait rendu le jeu un peu plus court. Ouais. La particularité aussi, c'est qu'on comprend l'histoire. C'est une nouveauté quand même pour From Software.
Elle est vraiment pas désagréable, je trouve.
C'est pas désagréable. Moi qui ai un rapport à l'histoire, ça a été toujours une de mes difficultés dans les Souls. C'est au bout de 8 secondes, j'étais perdu. Je ne savais même pas qui je jouais, quel rôle je jouais, où est-ce que j'allais. Je savais qu'il fallait à peu près que j'aille par là et que j'allais m'en prendre plein la tête.
Ouais.
Au-delà de ça, j'avoue que les différentes lectures, les différents dialogues dans les Souls, je ne comprenais pas de quoi on me parlait. J'avais énormément de mal à saisir le contexte.
Ouais.
Or, là, on a un vrai contexte, une histoire linéaire.
Il y a des rebondissements. Hein.
Avec des rebondissements, avec des voyages dans le temps, avec des retours en arrière, des choses comme ça. Mais il y a une quête.
Il y a une trame.
Il y a un objectif qui est clairement établi dès le départ et tout est explicite.
Oui.
C'est étonnant.
Oui, c'est assez étonnant. Et alors franchement, je pense qu'ils ont dû se poser des questions à From. Je ne sais pas si c'est le fruit d'une discussion avec Activision ou pas d'ailleurs, mais ils ont dû se poser des questions parce qu'effectivement, tout cet aspect complètement cryptique des Soulsborne, ça faisait partie du charme du jeu pour un grand nombre de leurs fans. Mais je pense aussi que ça rendait les jeux complètement inaccessibles à un grand nombre de personnes également. Moi, par exemple, j'étais complètement perdu dans ces jeux, dans ce qu'on appelle le lore.
Ouais. Voilà.
Bon, là, c'est sûr que le jeu est non seulement très explicite sur son histoire, hein, donc pour la faire courte, voilà, on incarne un shinobi qui se fait couper un bras par un méchant seigneur de guerre, lequel seigneur de guerre enlève le maître de ce shinobi qu'on incarne, qui est donc un héritier divin qui a un pouvoir d'immortalité, en fait. Hein, il a un sang qui le rend immortel. Donc, c'est ce pouvoir dont on peut bénéficier dans le jeu pour ressusciter
on n'en a pas parlé, mais on peut ressusciter une fois par...
une fois par combat, en
par
gros.
Combat, ouais, par gros combat.
Oui, une fois par gros combat. Et mais ça, on pourra y revenir après, peut-être sur la résurrection. Et donc, du coup, on va partir à l'assaut de la forteresse de ce seigneur de guerre pour retrouver l'héritier divin qui est notre maître. Et à terme, peut-être, voir ce qu'on fait avec ce pouvoir d'immortalité qu'il possède, voilà, parce que ça pose des questions. Et voilà, donc ça, c'est la trame du jeu. Et par ailleurs, le jeu est très explicite aussi sur les objets qu'on récupère, à quoi ils servent.
Il y a un tutoriel.
Il y a un tutoriel. On peut même s'entraîner contre un mec.
Un tutoriel dans un From Software. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est fou parce que je me suis fait vraiment la réflexion en jouant à Sekiro, c'est que j'avais une vraie fascination pour les Souls. Mon expérience sur le premier Dark Souls, j'ai considéré que c'était une belle expérience. Mais voilà, j'avais envie de retrouver ça, mais l'univers, ce culte un peu vain, je trouvais, moi, de la difficulté. Alors, je vais peut-être même faire insulter en rien qu'en disant ça, mais je trouvais qu'il y avait un culte assez... qui manquait de... Il y avait un culte de la difficulté, mais qui manquait d'enjeu, finalement. C'est-à-dire que c'était vraiment... On devait passer des boss difficiles pour vaincre des boss difficiles. C'est-à-dire que c'était un truc qui c'était autoréalisateur. C'était, il fallait battre le truc parce qu'il fallait battre le truc. Là, je trouve que ce qui rend le truc vraiment puissant, je trouve, dans Sekiro, c'est que cette linéarité, ce fait que ce soit explicite, tout soit explicité, y a un scénario, et ben cette difficulté, et ben il y a la récompense première qui est le sentiment de victoire absolue, qui est c'était le moteur et l'essence des Soulsborne. Il est toujours là, mais en plus il y a cette vraie satisfaction d'avancer finalement aussi dans l'histoire.
Oui. Par ailleurs, le jeu est parfois, alors il y a aussi des aspects du jeu. Parfois, ça rappelle presque Zelda. Par exemple, on va on peut espionner des conversations entre des soldats. Souvent, ça va donner des indices. Ils vont dire tiens, il y a tel ennemi, en fait, qui va être un mini boss ou un boss. Il a telle particularité. Il y a rien de tel que telle arme pour le battre.
Il aime pas le feu. Donc, voilà, il aime pas le feu. Il paraît qu'il y a des canons à feu qui existent.
Et donc, comme le shinobi qu'on incarne a perdu un bras, du coup, on se récupère une prothèse, enfin plusieurs prothèses, donc qui permettent du coup d'adapter, d'utiliser parfois du feu contre certains ennemis.
Ouais.
Parfois, c'est presque un truc de pierre feuille ciseaux. Parfois, il y a des ennemis qui sont sensibles au feu, des ennemis qui sont sensibles aux shurikens qui vont pouvoir les stopper dans leurs actions. Des ennemis qui ont des boucliers vont prendre un coup de hache, ça va briser le bouclier. Et donc, le jeu aussi, sans dire directement au joueur, allez chercher la hache pour battre tel ennemi, puisqu'on peut se retrouver face à l'ennemi sans la hache et peut-être même le battre sans, mais juste chiant.
c'est long.
Voilà. Mais du coup, le jeu va donner des indices très très limpides sur tel objet va pouvoir servir à telle action. Et donc, il y a des boss parfois où on sait, on a compris, on arrive devant le boss et on sait qu'il va falloir utiliser l'objet qu'on vient de récupérer. Voilà. Ce qui a un aspect pas désagréable aussi du jeu au final, parce que voilà, ça peut sembler une simplification. Mais en fait, ce que le jeu donne en simplification, c'est pareil avec la résurrection. Tout ce qu'il donne là, sur toutes les informations qu'il donne, le pouvoir de ressusciter, en fait, ça lui permet d'être beaucoup plus intransigeant peut-être sur vraiment la dynamique du combat. Voilà, puisque même ce pouvoir de résurrection, faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui peut servir en combat contre les ennemis lambda pour les reprendre par surprise, mais contre un boss, le boss ne vous lâche pas. Le mini-boss ne vous lâche pas non plus, donc quand vous ressuscitez face à un mini-boss ou un boss, vous vous retrouvez de nouveau dans le feu du combat, et parfois vous remourez directement. Donc
je crois que mes statistiques propres montrent que pour environ 87% des cas, la résurrection a amené à la mort définitive.
Oui, mais c'est très souvent le cas.
Ce qui fait que moi, il y a des fois, j'ai une sorte de dégoût de moi-même, j'ai passé la résurrection.
Oui, ça m'est arrivé au début.
C'est bon, je suis mort, quoi. Allez, hop, je meurs. Voilà.
Ça m'est arrivé aussi, mais en fait, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser. Ouais. Parce que la suite du combat, t'apprends quand même toujours quelque chose. Et en fait,
mais je sais que c'est une sorte de dégoût de soi-même. Enfin, ouais, t'es là, non, mais je suis trop nul, je mérite de mourir, tu vois.
Oui, j'en suis passé par là aussi.
Ouais, voilà. Donc, vraiment, une belle réussite, comme si... Enfin, je reviens juste très rapidement sur ce qu'on disait, c'est comme s'ils avaient gardé ce qui était vraiment intéressant. Alors, ça va peut-être faire hurler des fans absolus du lore Soulsborne, mais c'est comme s'ils avaient, ils s'étaient demandé pourquoi est-ce qu'on aime nos jeux. Qu'est-ce qui fait que From Software, comme on le disait en introduction, est devenu une licence, est devenu une marque de fabrique. C'est quoi le plus important là-dedans? Et Où est-ce qu'on peut aller ailleurs? Est-ce qu'on peut amener de nouvelles personnes? Parce que je pense, finalement, Sekiro, c'est ça qui est fort, je trouve, c'est que ils ont gardé cet ADN. C'est un jeu From Software, il n'y a aucun doute. Et en même temps, je trouve qu'il est suffisamment plus ouvert. Si Camille était là, comme c'était prévu, elle nous dirait peut-être l'inverse. Elle nous dirait que non, c'est un jeu qui... parce qu'on en a discuté avec elle et elle a eu un peu de mal à comprendre l'intérêt du truc. Mais je pense que si on accepte ce prérequis hein, qui est de ne pas avoir peur de mourir et cet apprentissage par le Die and Retry hein, qui est aussi emblématique du jeu vidéo, on va avoir une expérience très satisfaisante pour le coup.
En fait, je crois qu'il faut accepter l'idée que la moitié du temps qu'on va consacrer au jeu sera juste mourir et réessayer. Quoi.
Voilà. Mourir et apprendre. Et encore une fois, ce que je trouve... très réussi dans ce Sekiro, c'est mis à part, évidemment le level design, donc qui joue sur la verticalité, sur le grappin, sur les animations, je les adore.
Les animations
de grappin où il tourne sur lui-même, je trouve
toutes
ça hyper classe.
Toutes les animations sont magnifiques.
Il y a de la classe quand même.
Ouais. Il y a beaucoup de grâce dans le jeu.
Et ouais, tout le temps. Enfin, c'est satisfaisant. Tu prends ton grappin, tu tournes, t'es content, c'est bien.
Oui.
Mais t'as le même truc. Qui revient, je ne sais pas comment c'est possible de l'avoir réussi à ce point, c'est d'apprentissage de l'espace.
Oui.
C'est-à-dire que les niveaux, tu les connais. Tu connais où sont les ennemis, comme dans les Soulsborne. C'est-à-dire que tu finis par avoir une familiarité complète avec l'espace. Tu as une appréhension de l'espace comme ça qui arrive très vite. Ouais. Qui arrive très vite, c'est parce que tu meurs et que tu le refais. Hein, mais
qui arrive sans qu'on s'en rende compte.
Voilà,
en fait.
Ouais.
C'est ça. Il y a un moment, on se rend compte qu'on a apprivoisé l'environnement.
Oui.
Qu'on sait exactement où se trouvent les ennemis.
Mmh.
On a perfectionné des parcours parfois. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très agréable dans les jeux, et notamment dans ces jeux-là, je trouve. Ce côté que ce qui était un endroit totalement hostile au départ devient presque, je dirais pas la maison, mais devient. C'est un endroit où on finit par se promener relativement
tranquillement. Et ça se fait. Heure par heure. Moi, j'ai été très étonné de c'est pour tout dire, ça m'est arrivé. J'ai eu cette révélation juste avant d'arriver à l'enregistrement. Enfin, ce matin, j'ai joué encore et je me suis rendu compte qu'il y avait tout le début du jeu comme ça que je maîtrisais, alors qu'il m'avait semblé incroyablement hostile au début. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, je me rappelle, ça m'a rappelé des vrais souvenirs.
Ah ouais.
Et pour le coup, je vois, j'ai très peu de... Alors, est-ce qu'il y a des limites à ça? Est-ce qu'il y a des bémols à l'ensemble? Moi, j'en ai pas vu, en fait, pour le coup.
Bah non, moi, j'en vois pas. Franchement, pour le moment, j'ai pas fini le jeu. Hein. Je crois que je commence à être pas loin de la fin, même si je me repère pas trop. Mais bon, je crois que je commence à être pas trop loin de la fin. Mais non, moi, pour le moment, et même, je trouve que là, dans la deuxième partie dans laquelle je me trouve, le jeu prend une tournure assez fantastique et tout, qui est vraiment pas mal aussi. Il y a des environnements que je soupçonnais pas... que je suis en train de découvrir encore. C'est toujours aussi un bonheur dans ce jeu-là.
Ah, les passages secrets.
De trouver des passages secrets, d'arriver dans des zones qui sont complètement nouvelles. On se dit, je n'avais aucune idée que cette zone existait. On arrive là-dedans. Et bon, on est super content. Puis au bout de 5 minutes, on tombe sur un mini-boss, évidemment. Mais c'est le plaisir de la découverte et tout. Enfin, tout ça, ça reste vraiment hyper fort tout au long du jeu pour le moment. Ouais.
Eh bien. Sekiro, je m'attendais pas forcément à ça, c'est à ce niveau de réussite.
Ouais.
J'étais très étonné, c'est qu'en fait on rencontre un boss de fin au début du jeu, hein, qu'on perd son bras, parce que c'est une séquence qui est jouée.
Ouais.
J'ai vu quelqu'un qui l'a battu.
Alors j'ai vu qu'il existait des vidéos de gens qui battaient mais je ne sais pas ce qui se passe du coup.
Et ben en fait,
j'ai pas voulu regarder. Mais
en fait, ce qui est fou, hein, c'est que voilà, c'est un boss très 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 fort qu'on peut réussir à battre dès le début du jeu. Mais alors, il faut vraiment
Déjà torché 4 fois.
Ouais, c'est ça. Sauf que évidemment, pour que le jeu commence, il faut perdre son bras. Donc il y a un allié qui arrive et qui t'assomme par derrière. Et finalement, la séquence reprend après. Tu perds finalement ton bras. Mais c'était amusant. J'ai découvert ça qu'on pouvait théoriquement le battre dès le début du jeu, en fait. Ce cher... il s'appelle comment ?
Genichiro,
voilà, c'est ça, ce cher Genichiro avec son arc. On a évidemment pas fait le tour de...
Non.
Pas fait le tour de Sekiro.
On peut juste rajouter un truc, c'est vrai que c'est un jeu, comme toujours avec les jeux From, se pose la question du niveau de difficulté, de l'accessibilité du jeu.
Oui.
Et donc, le débat de savoir s'il faudrait un mode facile dans les jeux From Software revient, évidemment. Moi, je n'ai absolument pas d'avis tranché là-dessus. Moi, je pense quand même que la position un peu hardcore de façade qui consiste à dire non, c'est fait pour être expérimenté comme ça, tant pis pour ceux qui n'y arrivent pas, machin, je trouve ça un peu... voilà, je pense que ce n'est pas forcément malin de rester arc-bouté là-dessus. J'ai vu passer ce matin un tweet que je trouvais assez intéressant du créateur de Céleste, donc le très très bon jeu de plateforme qui était sorti l'année dernière.
Le Dark Souls du jeu de plateforme.
Voilà, le Dark Souls du jeu de plateforme, si on veut. Et donc, dans Céleste, il y a un mode pour faciliter le jeu, ce qui avait créé déjà du débat à l'époque. Et donc, il a avancé quelques pistes pour faciliter Sekiro, si le cas échéant, From Software avait envie d'aller dans cette direction. Voilà, je vous livre un peu ces pistes parce qu'elles sont pas mal. Parce qu'en fait, c'est pas juste la question de... La question, c'est évidemment comment est-ce qu'on peut faciliter un jeu tout en gardant l'esprit, effectivement, puisque dans ce qui est important dans les jeux From, c'est quand même ce sentiment d'accomplissement. Donc, ouais, comment est-ce qu'on le garde, ce sentiment d'accomplissement? Voilà, donc lui, il proposait, par exemple, de réduire la vitesse des combats, de donner plus de résurrection, de pouvoir d'être invincible quand on prend sa gourde pour se redonner de la vie aussi, parce que c'est vrai que c'est des moments où on est hyper vulnérable. Voilà, c'est des idées comme ça. Après, voilà, elles sont dans le débat. De toute façon, From Software, je pense, n'y
touchera
pas. Mais...
J'ai vu ce truc de résurrection infinie.
Ouais.
Et j'étais assez d'accord. Parce que, comme je disais, 85% des fois où je suis revenu, bah, je suis mort. C'est vrai que ça simplifie pas. Ça simplifie rien, en fait, la résurrection. Ça accélère juste le jeu. Parce que c'est vrai que y a cette difficulté de From Software, hein, c'est que tu arrives à un mini-boss, tu meurs, et bah, tu reviens en arrière et tous les PNJ, enfin les ennemis qui étaient entre les deux sont revenus
Ouais.
C'est il faut réapprendre. Bon, après, c'est comme ça qu'on apprend le territoire, hein, comme on en a parlé, c'est à force de refaire ces séquences-là. Mais c'est vrai qu'avoir une résurrection infinie, je pense qu'on aurait exactement le même sentiment d'accomplissement une fois le boss terminé, mais ce serait peut-être plus rapide, plus immédiat. Mais après, c'est un bullet time, j'avoue que je ne serais pas contre. Tu vois, c'est une sorte de bullet time pour au moment où il faut faire sa parade juste et tout ça, le truc ralenti pour why not. Mais après, je comprends, c'est vrai que c'est vrai. L'exemple de Céleste est le bon parce que le mode facile de Céleste n'a embêté personne.
Ouais.
C'est-à-dire les gens qui voulaient vraiment faire Céleste avec les fraises, les faces B, les faces C, les trucs dans les meilleures conditions, tout ça, ils ont pu le faire. Et puis ça a dérangé personne que d'autres puissent profiter de l'histoire d'une manière plus tranquille, casual et tout ça. Et un jeu comme Sekiro, peut-être plus qu'un jeu comme Dark Souls, justement avec son scénario un peu qui est compréhensible, accessible et tout ça, mériterait peut-être un mode facile. Voilà. Le débat reste ouvert.
On pose le sujet, quoi.
Parlez-en dans le forum de Silence on Joue. On est preneur. C'est le moment, justement, d'aller à l'autre extrême. Non, mais avant d'aller à l'autre extrême, c'est le moment d'accueillir la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy.
Salut, Erwan. Alors, cette semaine, on va partir à la chasse aux monstres. Le jeu s'appelle Cryptid, C-R-Y-P-T-I-D. Et il s'agit de déduction pure. En début de partie, chaque joueur reçoit une poignée de cubes et de disques de sa couleur. Au centre de la table, il y a un plateau modulaire avec des cases en forme d'hexagone. Chacune d'entre elles représente un type de terrain, forêt, montagne, marais, lac ou désert. Et puis on posera sur certaines cases des monuments abstraits comme ça, de couleurs et de formes différentes. Et là, franchement, chapeau. À chaque combinaison de terrain est associée une combinaison d'indices. Chaque joueur tient devant lui un livret avec une centaine de phrases listées à chaque fois dans un ordre différent. Chaque combinaison de plateau est associée à un numéro chez chaque joueur. Et donc chacun a la partie d'une information qui permettra de débusquer le monstre. Il y a 4 catégories d'informations différentes. Celle qui implique des terrains, par exemple, un joueur pourra savoir que le monstre se trouve ou dans la forêt ou dans un marais. Dans une autre catégorie, l'indice vous apprendra que le monstre se trouve à une distance maximum des monuments d'une certaine couleur. Et puis, chacun son tour, les joueurs auront l'opportunité de poser une question à un autre joueur ou de tenter d'attraper le monstre. On pose un cube quand le monstre ne peut pas se trouver sur cette case ou un disque quand c'est possible. Avec le temps et en posant les bonnes questions aux autres joueurs, on arrive à deviner l'indice qu'ils ont en leur possession. Les règles de Cryptid sont simplissimes. Ça prend en tout cas ces 3 minutes pour les expliquer. Et vous allez voir, ça active dans le cerveau des zones qu'on avait un petit peu oubliées. Ça ressemble à un jeu abstrait dans sa mécanique et dans son design, mais le thème en fait, il colle vraiment bien, donc il est pas abstrait, hein. C'est une grande battue aux monstres. Le jeu se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Les auteurs, Ruud Wievers et Al Duncan, c'est édité chez Osprey Games. C'est une nouveauté qui fait quand même pas mal de bruit dans le milieu. Il est très demandé, pour l'instant il n'y a qu'une version en anglais, mais il devrait arriver en français très bientôt. Ce jeu, c'est un petit peu un Cluedo super concentré, adapté à notre époque. Les critiques ont été dithyrambiques, la mienne est clairement en dessous de la moyenne. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux de plateau qui sont pour le jeu vidéo ce que votre vie est pour le monde virtuel. Bye bye.
Les jeux de plateau sont comme... Je comprends.
Je vais réfléchir, Jérémy. Merci. Merci pour cette chronique. J'aime bien les jeux où on a besoin que de 3 minutes pour expliquer les règles. J'ai joué à un jeu de plateau l'autre jour. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais la phase d'explication, je crois, a été plus longue que la phase de jeu. Je n'ai pas compris l'intérêt, en plus. Donc, ceci explique peut-être cela. Bref, c'est le moment d'aller à l'autre extrémité du spectre de la difficulté. C'est-à-dire que ici, il n'est plus question de mourir, il n'est plus question de réessayer, il est question de fleurs, il est question de soleil, il est question de revenir en enfance et ne plus parler comme ça de boss, de mini-boss, de mort à répétition et de résurrection. On va parler de Yoshi's Crafted World. Quand même mieux là, hein. Non, franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Non, je trouve assez amusant que ces deux jeux sortent en même temps.
C'est vrai que c'est assez marrant. Le passage de l'un à l'autre, enchaîner une partie de Sekiro et une partie de Yoshi, c'est une expérience physique assez étonnante au final.
Mais je trouve qu'on juge moins Yoshi après avoir joué à Sekiro. Enfin, à Sekiro. Sekiro. Non, mais du coup, on accepte plus cette absence totale de difficulté.
Ah oui, c'est un
vrai bonheur. On se dit, non, mais il n'y a pas forcément besoin de mourir pour apprécier un jeu. Donc, pour être sérieux, hein, dans la préparation de cette émission, je me suis dit, pour ne pas oublier des détails importants, il fallait que je garde une note sur le scénario, hein, toujours. Donc, je vous la restitue telle qu'elle est notée. Hein. Donc, les Yoshi vivent en paix sur leur île jusqu'au jour où le sorcier Kamek et bébé Bowser décident de dérober le trésor des Yoshi, le soleil au rêve. C'est pas beau la vie. C'est bien, hein. C'est bien.
C'est pas beau quand bébé Bowser et Kamek viennent te dérober ton soleil. Non, c'est pas beau la vie.
Déconne, parce que voilà, il y a une bataille et tout ça, et puis le soleil aux rêves, il arrivait à fonctionner avec ses 5 gemmes de couleurs différentes, évidemment. Et au moment de la bataille, voilà, les 5 gemmes partent dans les airs et se disséminent tout autour de l'île et dans les différents niveaux. Il va falloir récupérer les gemmes, c'est le but de la mission attribuée au Yoshi qu'on choisit, hein, parce qu'on peut choisir, c'est pour au début. Hein. Il n'y a pas que le Yoshi vert dans la vie, hein. il y a les autres, hein, il ne faut pas les oublier.
Moi, je joue avec le rose.
C'est vrai, moi j'ai pris le vert, je suis très 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 standard, tu vois, c'est aucune inventivité. Yoshi Crafted World, évidemment, c'est l'héritier, la suite, je ne sais pas, le nouvel épisode de ce qui avait commencé sur Wii U et puis après sur 3DS avec Yoshi Woolly World, hein, donc où on jouait comme ça, ces petits Yoshi en laine, avec un univers d'une matière, voilà, avec où on se jetait des boules de laine et tout ça. Là, on est dans le crafted, donc dans l'artisanat, donc un peu dans l'univers des livres pop-up et des découpages.
C'est un peu comme un Nintendo Labo intégré au jeu, en fait.
C'est ça.
Tout est en carton, comme avec Nintendo Labo.
En carton et en tissu, en fait. En carton, en tissu.
Avec des canettes, des...
Il y a un côté do it yourself, le côté un peu déco do it yourself, où on va faire ses découpages, on va faire ces petits trucs, c'est très coloré. Là encore, il y a un travail, moi je trouve, sur la matière qui est
bien sûr
à tomber par terre. Ouais. On est accueilli dans ce monde et on a envie de le découvrir. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que ça t'a fait.
Si, c'est ça. Mais c'est vrai que le travail sur la matière, mais c'est un peu toute l'histoire de ce studio Goodfeel qui a développé aussi le Woolly World et qui s'était fait remarquer avant avec un Kirby qui était aussi lui en pelote de laine.
Qui vient de sortir sur 3DS.
Et donc effectivement, c'est tout le travail de ce studio, mais c'est aussi un Nintendo. Enfin, c'est un studio qui appartient à Nintendo de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que Nintendo, ils ont toujours cet attrait pour le travail sur la matière. Et donc là, c'est vrai qu'on le retrouve. Ce qui est intéressant toujours, c'est qu'ils étudient aussi les effets. Voilà, quand c'était avec la laine, du coup, ça, il en découlait tout un tas de conséquences. Qu'est-ce qui se passe si on met de la laine dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe si on tire sur un fil? Et là, c'est pareil. Là, ils travaillent tout l'aspect physique du carton aussi. Voilà, on peut envoyer des œufs sur des trucs en carton qui s'envolent. On peut utiliser des aimants pour les mettre sur des canettes, pour grimper sur les, pour faire des plateformes sur les canettes, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail aussi derrière. C'est pas juste de l'apparat graphique, c'est aussi derrière, il y a des conséquences de gameplay.
Et puis c'est Nintendo, on se met sur les épaules des géants, parce que il y a évidemment tout l'héritage des Paper Mario qui ressort voilà, sur ce côté 2D, 3D, avec les différents plans. Ce qui est la première fois où on nous propose, alors ça arrive très très vite dans le jeu, en plus ce jeu est généreux, c'est comme d'habitude, mais c'est les jeux, bah, on peut les faire à l'envers. C'est une fois qu'on a fini un niveau, et ben on va aller on va dans le verso du niveau. Le niveau se renverse et donc on va aller récupérer les trois petits Pushy. Donc parce qu'on retrouve Pushy aussi, notre ami Pushy hein, qui était déjà là dans Woolly World et puis qui était déjà là dans le lore dans le lore Yoshi. Donc on retrouve voilà tous ces univers. Et donc c'est vrai que tu as dit ça exactement, c'est que il y avait le gameplay de la laine et là maintenant il y a le gameplay du carton, le gameplay du découpage, le gameplay des petits éléments bricolés à droite à gauche, des petites voitures, des petits déguisements, tout ça donne un univers qui est d'une cohérence folle. Et donc, quand on y joue, eh ben, on est tranquille. Enfin, surtout quand on vient de Sekiro. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de défi lié à la survie et au fait d'arriver à la fin d'un niveau.
Non. Globalement, arriver à la fin d'un niveau, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver tout ce qu'il y a dans le niveau. Ce qui demande beaucoup d'exploration, parce qu'évidemment, on trouve des niveaux souvent assez riches. Voilà, donc c'est toujours le plaisir du jeu. Mais effectivement, on traverse les niveaux vraiment de manière totalement détendue.
Mais détendu et en même temps, moi je sais que j'ai fini des niveaux où il me manquait 4 fleurs, j'étais très très vexé.
Alors voilà, c'est ça. Après, quand on n'a pas tout trouvé, on se dit mais qu'est-ce que j'ai raté? Parce qu'en plus, on y passe du temps parfois. On s'est dit, j'ai quand même l'impression d'avoir à peu près tout regardé, d'avoir dézingué toutes les boîtes de carton qui traînaient derrière, en arrière-plan, en avant-plan, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai raté dans cette affaire? C'est vrai que ça peut être un peu...
Une des nouveautés par rapport à Woolly World, c'est que donc il y a toujours ce truc d'avaler les ennemis et ça fait des munitions hein, pour pouvoir les tirer. Et ben là, on va pouvoir tirer en arrière-plan, en avant-plan. Enfin, il y a les trois niveaux. Hein, voilà, il y a le niveau où on joue et puis il y a le niveau derrière, le niveau devant. Mais on va pouvoir tirer
on
tire en 3D. Et donc il y a plein de choses cachées, de choses qui vont être des nuages. Alors les nuages, comme d'habitude, il faut tous ne sont pas visibles, donc il faut passer dessus pour les dévoiler. Donc il y a plein de secrets. Un niveau est blindé de secrets. On le voit au résultat où on a rarement 100% d'un niveau. En tout cas jamais en ce qui me concerne, sauf le tout premier évidemment, mais on n'a jamais 100% d'un niveau la première fois où on y joue. Donc voilà, il y a du défi quand même, mais c'est un défi d'exploration. C'est un défi tranquille. Alors il faut en plus signaler, alors c'est ça moi ça m'a fait rire, c'est-à-dire que le jeu n'est pas dur du tout, mais en plus il y a un mode relax. C'est-à-dire que ils sont allés dans le mode, eux ils sont pas posé la question, c'est-à-dire que notre jeu correspond au mode super easy de n'importe quelle autre production, mais on va mettre un mode super easy. C'est-à-dire que là, dans ce mode-là, Yoshi, il a ses petites ailes. Donc, il va même, sachant que la seule manière de presque mourir, parce que tu ne meurs pas, c'est parce que dans ce Yoshi, contrairement aux Nintendo, aux jeux de plateforme Nintendo, si tu tombes, tu ne meurs pas, parce que tu as des vies. Donc, sachant qu'en plus, Yoshi, il va avoir des déguisements. Donc, on va pouvoir affubler notre Yoshi d'un déguisement qui va lui donner de la résistance au coup des ennemis. On est dans le niveau... moi, il m'a fait rire à force de donner comme ça des avantages aux joueurs. Ça m'a fait rire quand j'ai découvert qu'il y avait des déguisements super rares qui te donnaient 5 vies en plus dans le niveau. Je me suis dit, ils veulent vraiment pas qu'on perde, quoi.
Bah oui, mais bon, en même temps, je pense que c'est un jeu qui se destine clairement aussi aux enfants, qui ont l'air de
et c'est ça.
Beaucoup s'amuser, en tout cas les tiens.
Alors moi, j'ai parlé de l'expérience, et Arthur, donc mon fils, ça a été... alors déjà, un peu à la manière dont il avait retenu la date de sortie de Nintendo Labo l'année dernière, il avait retenu la date du 29 mars depuis un mois, hein, où la sortie du jeu, parce qu'il y avait cette démo, hein, il y avait la démo du premier niveau hein, qui était disponible sur la Switch. Et donc, il a adoré Woolly World, et c'était vraiment un truc. Et là, bah, il est content. Enfin, il joue justement au niveau. Il veut les ailes. Il veut pas avoir à se poser de questions et avoir peur et tout ça. Et c'est une vraie expérience ludique. C'est un monde d'exploration où il n'y a pas la difficulté. Même les boss sont incroyablement simples. Enfin, simples à notre niveau de jeu. Mais au regard d'un enfant, c'est pas simple. Il va falloir trouver, comme d'habitude, c'est des boss Nintendo qu'il va falloir abattre trois fois pour les vaincre. Mais il va falloir trouver les patterns. Alors, c'est des patterns hyper simples. Mais voilà, je trouve que c'est une initiation aux jeux vidéo.
Ouais, tout à fait.
C'est une initiation aux jeux vidéo. Les adultes, comme nous, bah, ils trouvent un plaisir de contemplation aussi. Mmh. C'est parce qu'on n'est pas volé. Enfin,
non.
Il y a un vrai réel.
Ouais. Moi, je trouve ça toujours marrant. Ces jeux Nintendo, c'est aussi le cas un peu des Pikmin. C'est des jeux où Nintendo, tout d'un coup, est presque dans le photoréalisme, quoi.
Ouais.
Quand on regarde là, des fois, moi, je me suis arrêté encore ce matin sur des détails, des petites épingles qui étaient plantées dans des trucs. Et donc, il y a les reflets dessus. On a vraiment l'impression que c'est des vrais. Ils sont vraiment. Et là-dessus, ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils prennent. Enfin, rigolo, en fait, c'est même pas le mot, mais ce que je trouve admirable, c'est le sérieux avec lequel ils traitent la chose, quoi. C'est-à-dire, on est dans un délire total, dans le sens où ça n'a absolument aucune vraisemblance, mais c'est traité de manière hyper sérieuse. C'est-à-dire, la modélisation de tout est vraiment hyper détaillée. Et même, par exemple, quand on passe en verso et qu'on découvre que les boîtes en carton sur lesquelles on se promène, en fait, quand on voit le verso, on voit que c'est des boîtes de céréales, on voit le nom des céréales et tout. Donc, on imagine qu'elles ont été peintes, etc. Enfin, il y a tout ce sérieux dans la conception du truc, c'est vraiment pas du gadget pour eux, quoi. C'est vraiment c'est très très.
Il y a un level design, les niveaux sont immenses. Enfin, c'est vraiment certains niveaux immenses. C'est varié, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux spéciaux, il y a des niveaux où on va tout détruire, il y a des niveaux, il y a vraiment la variété telle qu'on peut s'attendre dans un jeu Nintendo, c'est-à-dire que chaque niveau a une thématique, a des nouveaux systèmes, pas forcément de gameplay, mais des nouveaux objets avec lesquels qu'on va pouvoir manipuler. Donc il y a vraiment une créativité. Enfin, pour moi, c'est un triple A pour enfants.
Ouais.
Je suis désolé, mais citez-moi-en d'autres. Des triple A pour enfants, c'est-à-dire des jeux avec où il y a un vrai investissement. On prend pas les enfants pour des idiots, ni pour des vaches à lait parce que vu qu'ils vont le demander à leurs parents, c'est pas grave si on leur fait un sous-jeu ou un jeu fait à la va-vite et tout ça. Non, il y a un savoir-faire, il y a une vraie. Les créateurs de ce jeu-là ont vraiment eu envie de donner un très bon jeu, mais pour une cible. De 6, 7, 8 ans, qui est une cible qui n'ont pas énormément, ils n'ont pas une ludothèque très développée. Je suis désolé, c'est un jeu. Alors, le seul défaut, si je peux en citer un, c'est que j'attends avec impatience la sortie de la nouvelle Switch pour enfants. Parce que là, je suis obligé de laisser ma Switch. Laisser sa Switch à un enfant de 6 ans, t'es pas serein, t'es pas forcément. Tu répètes 8 fois que non, alors fais attention et tout ça. Après, il y a des taches de doigts. Forcément, l'écran est pas toujours hyper propre comme tu voudrais. Mais la Switch est pas forcément la console la plus adaptée aux enfants. Donc c'est peut-être le petit bémol. Hein. Non, mais c'est un vrai bémol. C'est-à-dire que c'est pas. C'est peut-être plus un jeu à jouer avec la Switch dockée, avec une manette externe. Voilà, c'est pas un jeu de Switch mobile pour l'instant, qu'on va plutôt avoir acheté une manette Switch spéciale. Le jeu, on joue sur la télé et tout ça, mais quand il y aura la rumeur de la Switch un peu version enfant, peut-être ce sera un jeu qui ira très bien avec. En tout cas, j'adore. Enfin, je suis très 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 fan.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très très cool. Et c'est vrai que c'est ça qui est marrant quand même, magique avec le jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir passer d'un Sekiro à un Yoshi, et C'est des expériences tellement différentes, tellement opposées.
Et tout est valide.
Ouais,
c'est-à-dire voilà, c'est que l'existence de l'un n'invalide pas l'existence de l'autre. Et parce qu'il y a on sait que dans la culture du gaming, il y a un culte hardcore gamer qui va mettre en avant la difficulté comme étant l'alpha et l'oméga du jeu vidéo. Là, on prouve par ces sorties concomitantes que voilà, non, le jeu vidéo, c'est pas ça. Il y a des propositions dans les deux extrêmes et les deux propositions sont valides et c'est une belle morale.
Ouais.
On a une belle morale dans ce silence. À la fin de ce silence, on le savait. On le savait qu'on allait arriver à cette morale un peu unificatrice. C'est la théorie du tout. Tu vois, c'est la théorie du tout du jeu vidéo. C'est Sekiro et Yoshi's Crafted World. C'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Ah, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt du tout, Franz.
Non, ouais.
Tu n'es pas prêt. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, cher ami?
J'ai peur de l'avoir déjà dit, mais si c'est le cas, c'est pas grave, c'est toujours ce que je fais. Je re-regarde la série Fargo. Je sais plus si j'ai déjà dit.
C'est vrai, tu re-regardes
les trois saisons de Fargo.
Tu attends la saison 4 en trépignant.
Oui, absolument. Ouais. Non, je trouve cette série absolument formidable.
Tu en parles, j'ai envie de la revoir. Ouais.
Je trouve ça fou. Alors, c'était déjà la raison pour laquelle j'adorais le film de Claire Cohen, mais je trouve ces histoires de gens lambda qui se retrouvent embringués dans des trucs qui les dépassent complètement. Et qui parfois retournent la situation à leur avantage. Enfin, je trouve c'est toujours incroyable à suivre. Et même quand on connaît le déroulement du truc, je trouve ça toujours incroyable. Et puis il y a aussi tous ces personnages de tueurs maléfiques qui sont aussi Billy Bob Thornton dans la première saison, qui est quand même absolument extraordinaire.
Le mec de la troisième saison, il est terrifiant.
Il est incroyable. C'est le pire gars. C'est le pire gars que je crois avoir vu dans une fiction de ma vie.
C'est
avec ses dents pourries.
Rien que d'y penser.
C'est absolument infernal. Ouais, on en a des frissons quand on en parle.
Ouais.
Et par ailleurs, j'aime beaucoup cette série aussi parce que c'est une série avec des personnages de flics cool. Et comme les flics cool, c'est rare.
Ouais.
Voilà. Donc moi qui suis fan de Columbo, voilà, ça me donne un peu. Je trouve qu'il y a un côté un peu. Je verrais bien, par exemple. Même, je verrais bien Frances McDormand du film Fargo reprendre Columbo. Je verrais bien l'actrice qui joue la flic dans la première saison jouer Columbo. Voilà, je trouve ça bien. Ça me fait penser à ça aussi.
Non, mais c'est vrai. Et puis, formellement, c'est incroyable. Ouais. Pas que visuellement, mais sur la construction des épisodes, sur les épisodes qui prennent un peu le truc à rebours et tout ça. Enfin, c'est une série absolument incroyable. Moi, pour ma part, dans la catégorie des séries incroyables, mais dont j'ai du mal. Enfin, en fait, c'est la saison 2 de The OA qui vient de sortir. J'ai trop eu du mal à expliquer pourquoi j'ai adoré la première saison. J'ai un rapport à cette première saison de The OA qui est limite personnel. Enfin, je pense que c'est peut-être la même chose pour tout le monde, j'en sais rien, mais avec les chorégraphies, avec l'univers qui est proposé, avec le rapport à la narration qui est proposé, j'avais une vraie affection pour la première saison de The OA que j'avais du mal à expliquer. J'avais du mal à dire aux gens, regardez The OA, machin, parce que j'avais peur de commettre un impair presque en conseillant le jeu. Ça se trouve, les gens, ils n'avaient pas accroché comme moi. C'est à peu près la même chose avec la deuxième, que j'ai pas tout à fait fini, mais que je suis dans une extase. J'adore. Pour moi, c'est une expérience qui se rapproche de The Leftovers, dans le côté totalement décalé par rapport aux attentes qu'on peut avoir d'une narration typique, c'est-à-dire que on ne sait pas où on va, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas d'objectif de fin quand on lance l'épisode, et ben on ne sait pas là où ça va nous emmener, on n'a aucune idée et on ne sait pas là où va nous emmener l'épisode suivant. Et donc à chaque fois c'est une découverte, c'est un truc. Il y a des choses dans cette saison 2 qui relèvent du génie pur. Et voilà, donc c'est The OA saison 2 disponible sur Netflix. À la réal, c'était Solène Moulin. Merci Solène. Et puis voilà, merci Franz.
Merci Erwan.
C'était formidable. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.